9h-11h,
Wendy Bouchard.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, chers amis. On fait le tour de la question après une première partie entre histoire et théâtre, cette fois dans l'univers des parfums. Pourquoi sommes-nous tellement attachés à une marque, à une référence précise, à une senteur, à une composition ? Et il y a des parfums qui nous racontent la vie, la manière dont elle imprime ses souvenirs est très importante aussi. Pourquoi y a-t-il des nez plus développés, plus sensibles que d'autres ? Et des odeurs plus enivrantes aussi. C'est un sujet vaste ce matin qui nous entraîne jusqu'à 11h sur Europe 1. Merci de nous être fidèles.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Charles Bibi, les Guerlains en question. Elisabeth de Fédot, historienne du parfum, consultante pour le Grande Maison de Parfumerie. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez écrit ce roman des Guerlains, parfumeurs de Paris, aux éditions Flammarion. On va parler parfum aussi avec Denise Beaulieu qui est avec nous, journaliste pour la revue Née, une revue olfactive. Bonjour. Bonjour. Elle sent vraiment cette revue ?
Ah ben on a des petits scratch and sniff.
C'est formidable ça. Voilà qui nous plonge dans l'ambiance car vous allez nous donner à sentir aujourd'hui. Et vous avez co-écrit ce livre, Le Grand Livre du parfum Né Culture pour une culture olfactive. Avec nous également un ingénieur agronome, Roland Salès, créateur du laboratoire de neurobiologie à l'INRA. Vous avez publié Faut-il sentir bon pour séduire ? Mais c'est tout un programme. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'être l'homme aussi de la situation ce matin. Alors on va vous raconter les parfums. Julie vous disait sa fidélité à un parfum. C'est le cas de nombre d'entre nous. Je ne sais pas à quel âge on commence d'ailleurs à ressentir ce besoin de parfum. Vous qui avez travaillé sur le sujet, à quel âge on peut commencer à porter soi-même du parfum, Elisabeth de Fédot ?
Ben, quand on veut, en tous les cas, il n'y a pas de prescription particulière. Il y a eu une vogue à un moment donné pour les parfums d'enfants.
Oui, notamment tartines et chocolat.
Voilà, tartines et chocolat.
Alors que le bébé sent tellement bon. Oh, déjà.
Exactement, je ne pense pas que ça soit forcément utile. Alors c'était évidemment des parfums qui étaient délicats et qui n'étaient pas dangereux pour les enfants sur le plan alcoolique. Mais
ce n'est pas pour les bébés, c'est pour les petites filles.
Les petites filles, voilà.
6 ans.
Voilà. Alors l'âge, ce qu'on constate quand même, c'est que l'âge rajeunit. Hein. C'est-à-dire que si on prend par exemple un des grands premiers parfums pour jeunes qui a été Anaïs de Cacharel, eh bien, il s'adressait aux jeunes filles de 18 ans, 16-18 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt des jeunes filles de 10-11 ans.
Ah oui.
Voilà, donc ça rajeunit.
Oui.
Tartine et chocolat, on l'abandonne de plus en plus vite.
Oui, c'est ça. Mais on a envie, voilà, regarder tous les parfums d'ambiance aussi à la maison. Ces odeurs nous entourent, ces odeurs font sens. Et à l'occasion de ce salon cosmétique 360 au Carrousel du Louvre, on va parler des innovations dans l'univers de la parfumerie aussi. Denise Beaulieu, est-ce qu'il y en a d'ailleurs des tendances cette année ?
Les tendances, elles sont souvent en fait, on essaie de capturer des odeurs sous cloche en fait, pour analyser les molécules odorantes qui s'en dégagent, qui sont des odeurs souvent d'aliments, de friandises,
qui
nous font saliver. Pourquoi ? Parce que quand vous entrez dans une grande enseigne de cosmétiques et que vous devez chercher votre parfum en 5 minutes à l'heure du déjeuner, il faut que vous soyez capté par quelque chose, que vous soyez séduite. Donc une odeur de macaron, une odeur de meringue, une odeur de financier, qu'est-ce qu'il y a de plus séduisant ? Je ne dis pas que c'est la meilleure parfumerie du monde, mais en tout cas, c'est ça que les grandes maisons essaient maintenant d'intégrer à leur parfum.
Ah, c'est intéressant. Voilà comment le côté sucré aussi peut rendre addictif et enivrant. Ça, vous connaissez bien le sujet, Roland Salès. Hein. Ça fait directement appel à notre cerveau, cette histoire.
Oui, tout à fait. On attaque les zones les plus végétatives du cerveau. Oui. Avec ses aspects.
Avec la barbe à papa, le macaron.
Voilà, c'est ça, avec le sucre, toutes les vocations du sucré, et ça déclenche très souvent un acte d'achat.
Oui, il y a le côté nature aussi qui est très représenté dans les parfums de plus en plus, Elisabeth.
De plus en plus, il y a vraiment aussi cette recherche de se retrouver, de revenir à l'essentiel, d'être dans la naturalité. On a envie de sentir de plus en plus une rose qui est celle du jardin, vous voyez, ou alors ces odeurs aussi très vertes, très fraîches, apaisantes. vivante, mmh. il y a aussi cette grande tendance d'aller vers la naturalité et aussi vers des matières dans le sourcing, si vous voulez, qui soient le plus respectueuses de l'environnement aussi.
C'est ça. Donc, c'est-à-dire voilà. que le parfum c'est-à-dire devient aussi éthique à sa manière.
Absolument. Éthique. Ouais. Et on le voit, il y a des engagements de grandes marques de parfumerie qui vont vers ça, aussi bien la protection de ces métiers, mmh. donc des personnes qui travaillent dans ces filières, et aussi le respect de la nature. Donc on ne saccage pas la nature pour prendre ce qu'elle nous donne, mais au contraire, on va la protéger pour qu'elle dure. Et ça, c'est essentiel. Et il n'y a pas de vrai luxe en parfumerie s'il n'y a pas ce respect essentiel à la fois des hommes et de son environnement.
Et de ce qu'ils produisent, voilà. Le vétiver, le santal, absolument. La vanille, on va la chercher là où ces produits sont ancrés et créés. Oui, voilà. Avec le plus de respect possible. Alors, on va parler de ces tendances régulièrement, de ce côté proche de la nature, de ces créations, parfois de manière très personnalisée pour certains parfums, mmh. et puis de ces grands parfums qu'on porte, qu'on partage, mais qui sentent différemment sur nous que sur un autre. C'est étonnant, c'est pour ça qu'on se sent finalement en phase avec ce parfum-là. Claude Sophie, Marie nous rejoignent au standard pour partager ces moments, ce que les parfums révèlent et disent de nous. C'est le thème de cette émission jusqu'à 11h avec Julie.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Que les parfums disent et révèlent de nous. Voilà le sujet de cette émission jusqu'à 11h.
Oui.
Wendy Bouchard.
Vous connaissez la réplique de Marilyn. Que portez-vous pour dormir, hein,
bien
évidemment.
Sûr.
Chanel numéro 5. Exactement, Chanel numéro 5 est une autre parfum, l'un des parfums les plus connus au monde, créé en 1921, dont vous pouvez nous parler, Elisabeth de Feydeau, historienne du parfum, vous qui avez écrit le roman des Guerlains, parfumeur de Paris, Denise Beaulieu, journaliste pour Né, la revue olfactive et auteur du livre Le Grand Livre du Parfum. Roland Salès est avec nous, il travaille sur les neurobiologies de l'olfaction à l'INRA et c'est très intéressant. Par exemple, cet autre parfum, Chanel numéro 5, en effet, elle fait le tour du monde. Ça fait partie des parfums, je veux dire, des références, des labels quasiment du parfum.
Ah oui,
dont on ne se lasse pas.
C'est un véritable rituel de féminité, si vous voulez. Ce parfum, il est au niveau du mythe. Oui. Et alors que ce n'était pas parti pour du tout, parce que quand il sort en 1921, ce n'est pas un succès de rue, le numéro 5. C'est vraiment un succès d'initié.
C'est du luxe, déjà.
Qui est un grand luxe, oui. Qui est réservé, en fait, que Chanel, même au tout début, offre à ses meilleures clientes, comme un cadeau qu'on fait à une amie. Et ensuite, cette pénurie qui est installée va créer la désirabilité. Et puis, c'est bien plus tard que ce grand succès arrive sur un plan planétaire. Et le 5 le doit beaucoup, notamment Marilyn Monroe. Oui. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et ensuite, ça fait partie de ces grands parfums qui se passent de mère en fille, de meilleures amies en meilleures amies. Enfin, c'est vraiment un secret, un rituel de féminité.
Oui, Caroline Mumtaupe sur le hashtag Europe 1 nous dit « Ça fait plus de 15 ans que je porte la même chose sans même envisager de pouvoir mettre un autre parfum. C'est un peu moi, mon parfum. » Et elle porte le Jean-Paul Gaultier classique. C'est le flacon assez original,
Denise Beaulieu. De buste.
De buste féminin, c'est
puisque ça ressemblait au corset rose que Jean-Paul Gaultier mettait dans tous ses défilés.
Oui, absolument. Nous avons Marie qui est avec nous au 3921 qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, bonjour à vous toutes.
C'est un sujet que vous aimez dans le luxe, l'élégance. Vous avez travaillé pour Givenchy Haute Couture,
oui,
je crois.
Oui, voilà. Je travaillais pour Givenchy Haute Couture dans un autre temps.
Oui.
Et il y avait un parfum qui s'appelait Interdit à cette époque-là.
Oui.
Et l'autre jour, enfin il y a un petit moment, je suis passée à ma parfumerie parce que Interdit ayant disparu, je me suis basée sur Opium ou bien sur aussi Chalimard de Guerlain. Je changeais de temps en temps.
Mmh.
Mais un jour, il y a une vendeuse de la parfumerie, elle me dit « Mais vous cherchez quoi comme parfum ?» J'ai dit « Mais vous connaissez pas ?» Elle me dit « Dites-moi, on sait jamais. » J'ai dit « Non, vous connaissez pas, je suis trop vieille par rapport à vous. » Alors elle me dit « C'est quoi ?» J'ai dit « Interdit de Givenchy. » Et ça reste comme ça, elle dit « Ben non, je connais pas. » Ça reste comme ça. Et il y a une quinzaine de jours, je passe à la parfumerie, Interdit est reparu.
Ah.
Je l'ai senti.
Oui.
Je pense qu'ils ont rajouté quelque chose dedans, mais c'est mon odeur fétide.
Ah, donc vous avez renoué avec l'Interdit de Givenchy.
Ah oui, bah oui.
Alors, il faut qu'on vous rappelle une chose, vous qui êtes historienne dans le genre, Elisabeth de Feydeau, c'est que l'Interdit a été créé par Givenchy pour une grande actrice.
Pour Audrey Byrne, absolument, et qui lui avait répondu, quand on lui avait posé la question de savoir si on pouvait le commercialiser, ce parfum que donc Hubert, son grand ami, lui avait créé pour elle, elle avait répondu « mais je vous l'interdis », d'où le nom ensuite qui a été repris pour ce parfum. Alors, celui qui vient de ressortir donc porte le même nom, mais ce n'est pas le même parfum.
C'est ça le problème. Voilà. Et pourquoi les grandes marques décident d'arrêter comme ça des parfums qui sont des parfums d'une vie? Parfois, on se trouve justement, alors on en achète 3-4 flacons, mais
c'est comme si on se faisait arracher notre âme, en fait, quand on est fidèle. Moi, je suis une infidèle absolue.
Infidèle absolue.
J'aime beaucoup des styles de parfumerie, mais je suis infidèle. Mais je comprends très très bien les gens qui sont viscéralement attachés.
C'est-à-dire que vous avez plusieurs parfums ou vous en changez régulièrement?
J'en change régulièrement parce que je les teste. Pour moi, les parfums, ce sont des voyages plutôt que des identités. Ce sont des petites maisons que j'habite pendant. Qui se déplace avec moi. Mais pour revenir au changement des parfums, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des styles, par exemple, on parlait du fameux Chanel numéro 5, comme l'interdit dans sa version originale, qui était portée par Maryse.
Oui,
c'était en fait des styles, ce sont des styles de parfums qui, s'ils ne sont pas portés par la publicité et portés par le mythe, seraient appréhendés comme étant démodés. Et souvent, les marques vont garder un nom comme l'interdit, c'est un nom formidable. Le parfum, il y a toujours ce côté séduction, interdiction, transgression.
Il y a le flacon, il y a l'image qui le représente.
Scandale, tout ça. Il y a toute cette veine de parfumerie qui est... Et on garde le nom, mais on change le contenu pour le mettre au goût du jour.
Et évidemment, parfois ça
perturbe. Le numéro 5, quand même. Il a des évolutions qui sont liées aux concentrations, mais c'est pas le jus est intact.
Jus est intact.
Alors,
je suis bien d'accord.
Je donnerai la parole à Claude Sophie qui porte Opium justement de Saint Laurent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous portez. Et moi, je voudrais faire réagir Roland Salès dans un instant parce qu'il nous regarde et c'est vrai que souvent on se renifle entre femmes. C'est bon ton parfum, il est bon ton parfum. Ça doit vous paraître bizarre quand vous appréhendez ces comportements.
Je l'ai pratiqué.
Voilà. Vous allez nous expliquer aussi pourquoi on fait ça. Voilà, ce rapport au nez, à l'olfaction, un autre parfum qui nous raconte jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Un pchit de parfum dans le studio. Si chacune faisait un petit pchit dans le studio, tout se mélangerait, ça serait quoi?
Ça serait le parfum de Julie qui est avec moi au quotidien, d'Elisabeth de Fédot, historienne du parfum, de Roland Sarès qui est spécialiste de neurobiologie, de l'olfaction à l'INRA, et le parfum de Denise Beaulieu qui nous racontait son infidélité. Vous n'avez pas un type de parfum, vous en changez, ce sont des voyages par exemple.
J'ai un type, j'ai une famille olfactive que je préfère, de Mitsuko de Garlin, en fait, et de ses descendants. Donc j'ai tendance à y revenir tout le temps.
Qui est à base de quoi?
Qui est à base, en fait, il y a des notes qui sont fruitées, assez rondes, douces, comme la pêche ou la prune, et ensuite des notes florales, assez opulentes, comme le jasmin, et puis des notes ambrées, qui sont douces, un peu comme un peu vanillées, et puis il y a un fond boisé, qui est plus dur, un peu plus, je dirais, un peu plus tough, un peu plus presque amer, quelque chose qui donne une structure, un corset à tout ça.
On va parler d'ailleurs des parfums de femmes, des parfums d'hommes, des parfums mixtes, comme on crée les parfums, des familles de parfums. Roland Salès, vous pouvez réagir à ce que l'on dit depuis tout à l'heure. Vous êtes plutôt spécialiste de l'odorat, donc c'est ce qui nous intéresse, plus que du parfum. Quand on se sent comme ça, les unes les autres, quand on dit tu sens bon, c'est parce que c'est une odeur qui nous plaît, évidemment. On n'est pas objectif devant la senteur et l'odorat.
Alors, bien sûr, la première impression quand on sent quelque chose, parfum ou autre chose, c'est dire j'aime pas.
Oui.
Ça c'est vraiment la toute première, le premier abord. Ensuite, après, pour les gens qui ont une grande culture olfactive et du parfum, comme nos invités ici, là on peut décrire ce qu'on ressent, mais la plupart des gens ne savent même pas décrire ce qu'ils ressentent.
Il y a des parfums qui cocottent, voilà, qui nous repoussent alors que la personne qui la porte l'adore.
Complètement, absolument. Et puis en plus on ne se sent pas quand on se parfume. Enfin on se sent les toutes premières minutes.
Pourquoi on se met du parfum le matin
et
on ne se sent pas?
Le système olfactif, comme tous les sens d'ailleurs, se désactive progressivement en présence d'un stimulus constant. Vous mettez un parfum, les deux premières minutes vous allez le sentir, petit à petit vous le sentez plus. Comme je vois quelque chose, dans cette pièce, bon, là, rien ne bouge, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui entre, là, je vais faire attention. Donc, le cerveau, il est toujours attentif à la nouveauté, en fait. Donc, il écrase toutes les sensations constantes.
Donc, quand
on
s'habitue à notre parfum, on s'habitue à ne plus le sentir, mais absolument. Ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas, ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention à ne pas en mettre de trop.
Sinon, on cocotte, justement. Voilà, ah oui, on cocotte avec tout type de parfum, en fait. C'est à partir c'est la surdose.
Vous savez pourquoi l'expression cocotte, d'où elle vient?
Maintenant,
ça vient en fait des grandes cocottes. Vous savez, ce qu'on appelait les grandes horizontales sous le Second Empire, qui étaient ces femmes entretenues et qui avaient compris que par
les
le
poules,
parfum,
quoi.
Les poules de luxe, voilà, et par le parfum, elles retenaient leurs amants, puisque l'odeur, Denise l'a raconté tout à l'heure, il y a cet impact dans la séduction qui est très fort. Et elles utilisaient certains parfums évidemment très lourds, très capiteux, comme le patchouli par exemple. Et du coup, bah, évidemment, les femmes du monde disaient, mais c'est cocotte qui cocotte. Et voilà, et c'est de là.
Oui, mais ça peut écœurer quand même, justement.
Ah bah oui, ça écœure.
Et là, on n'est pas tous égaux, justement, devant ces produits qui nous répulsent parfois.
Absolument. Alors, on a tous des goûts différents.
Oui.
On a tous un système olfactif différent, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas les mêmes capteurs dans le nez pour sentir les produits odorants.
Oui.
Donc en fait, on ne sent pas tous la même chose.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, là, c'est une question d'odorat, mais une question de peau. On peut mettre tout ici en studio le même parfum, il ne se sentira pas la même chose selon les peaux des unes et des autres.
Il sentira quand
Denise
même,
Beaulieu,
s'il est bien fait, il sentira à peu près la même chose. Simplement, on ne le sent pas à la même distance. Si je vous sens ici, vous êtes à quelques centimètres, vous êtes plus loin. Bon, si je vous sens de là où vous êtes assise, Wendy, c'est qu'il y a un problème.
J'ai abusé
parce
un peu sur le flacon.
Voilà, vous avez un peu abusé, vous êtes repeinte, vous êtes repeinte à votre parfum. En fait, on le sent à différents temps aussi. Hein, parce que moi, par exemple, si Elisabeth de Feydeau s'est parfumée ce matin et que je la sens une heure après qu'elle se soit parfumée, je ne sens pas la même chose que quand moi je mets le même parfum qu'elle, que j'adore au demeurant, l'or bleu, je vais le sentir différemment.
C'est quand même une question de peau malgré tout, c'est que le parfum c'est un phénomène chimique, donc ça, c'est une rencontre.
Plus ou moins, quand même.
Jean Giono disait, le grand écrivain disait toujours, le parfum c'est l'odeur plus l'homme, donc c'est quand même cette histoire de rencontre. Donc c'est assez joli de se dire que même si on porte le même parfum, on le portera différemment.
C'est ça que je veux dire.
Et autrefois, d'ailleurs, les parfumeurs parlaient de parfums de peau en disant que si on était blonde, brune ou rousse, on allait aller vers différents parfums, ce qui n'était pas faux du tout.
Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des créateurs qui vraiment personnalisent en fonction de votre silhouette aussi, de votre état d'esprit.
J'ai vécu avec un roux, il faisait au parfum ce qu'on ferait pas à un chien. Hein.
C'est les plus mauvais clients d'ailleurs pour le parfum.
Et pourquoi les roux, mais c'est quoi le problème?
C'est-à-dire c'est l'acidité de la peau.
Parce qu'ils ont une peau acide, les roux.
Oui, c'est
un gène, je crois, qui est différent.
Ah oui.
Les trois couleurs de cheveux correspondent à des gènes différents.
Ah, donc c'est une vérité, ça.
Oui,
c'est-à-dire que vraiment, on peut...
Alors maintenant, c'est quand même assez mal connu, justement, l'effet des gènes sur la composition de la sphère et son évolution. Mais c'est une expérience commune, effectivement, que les parfums changent d'odeur.
Ça veut dire que quand on est roux, on doit se parfumer plus sucré, normalement, c'est ça? Pour adoucir.
Alors là, je ne saurais pas vous dire la phrase, je me tourne, mais...
Non, mais Denise Beaulieu.
Il y avait quelque chose que je lui avais proposé à cet anglais roux qui était épicé, avec des notes un peu anisées. C'est vrai que celle-là, pour le coup, ça lui allait bien.
C'est
pas un pléonasme.
Julie, vous vouliez dire un petit mot?
Oui, moi, je voudrais qu'on m'explique où il faut se parfumer, sur quelle partie du corps. Les cheveux, la peau ou le vêtement?
La peau, essentiellement, et des cheveux.
Mais où la peau? Dans le cou?
Alors, on dit qu'il y a les avant-bras. Il faut aller. Le parfum aime la chaleur. Donc, les points de pulsation sur le corps, donc derrière les oreilles, au creux du cou, sur les poignets, au creux du coude aussi, derrière les genoux, sont des points de pulsation. Où justement,
les genoux.
La peau irradie davantage.
Dans le métro, c'est la banquette qui reçoit tout.
Et les cheveux, quand même.
Et les cheveux, bien sûr, c'est des belles fleurs merveilleux. Il faut relire Baudelaire. Hein, et vous avez tous ces fantasmes sur la chevelure parfaite.
Merci.
Alors, moi, je connais quelqu'un qui. On lui a conseillé de pulvériser l'air.
Vous savez qu'on doit faire une pause à un moment donné.
Oui, mais tant pis.
D'accord.
C'est pas long. Elle pulvérise l'air devant elle, quoi, dans une caisse.
Et elle rentre dans le nuage.
Et elle traverse ce nuage de parfum pour se parfumer.
Pourquoi pas? C'est joli, c'est moins direct. Ça permet peut-être d'avoir moins de. D'allergie ça. Éventuellement.
Mais, oui, mais elle en gaspille, non? Elle purifie.
Oh. Mais c'est son truc, c'est joli. Voilà. C'est joli.
Oui, c'est joli.
C'est la part des anges.
Ah, la part des anges. Bah voilà, c'est une émission très poétique.
Bon, mais ça n'empêchera pas de faire de la pub.
Non,
maintenant,
mais on est un peu. On doit y aller là. 10h27, juste après, donnons la parole à Claude Sophie, à Jacqueline, à Georges, qui utilisent le même parfum depuis 50 ans. Ça, c'est beau, cette fidélité aussi. On se retrouve tout de suite pour faire le tour de ces senteurs.
souvenir se voile. Tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au Café des Délices.
L'odeur du jasmin du Café des Délices. Oui. Cette chanson, elle est délicieuse. Et voilà, ces parfums d'enfance, de nostalgie, ces parfums qui racontent votre papa, votre maman, votre grand-mère, ces parfums à lesquels on s'attache toute une vie parfois. C'est ça aussi, les parfums. Roland Salès, vous qui travaillez en neurobiologie de l'olfaction à l'INRA, vous avez publié « Faut-il sentir bon pour séduire ?» C'est la question que je vais vous poser. Vous n'avez pas résumé, synthétisé votre livre en quelques instants, mais quand même, on se parfume d'abord pour cela ?
Sans doute, mais pas seulement. Je pense que le parfum, il a deux aspects. Un aspect qui est tout à fait personnel, c'est-à-dire qu'il faut, pour être en paix avec soi-même, il faut bien se sentir.
Oui, ah oui.
Et son odeur corporelle peut suffire, on la sent en permanence, mais comme le parfum, au bout d'un moment, on ne la sent plus,
oui.
Mais elle est toujours là.
Oui.
Et puis, le parfum, c'est en quelque sorte un deuxième message qu'on rajoute. Et les gens qui sont très fidèles à un parfum pendant des années et des années, c'est en quelque sorte une image d'eux-mêmes, une image olfactive.
C'est une identité. Hein.
Oui, c'est une identité.
Oui.
Et même si on ne le sent plus, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'au bout de deux minutes, on ne le sent plus, ça reste, on le respire en permanence. Donc c'est un signal constant qui nous rappelle qu'on est soi-même.
Mais est-ce qu'il y a des parfums qui enivrent, pour revenir sur l'histoire des cocottes tout à l'heure, un parfum doux qui chimiquement, vous voyez, attire votre partenaire, homme-femme ?
Alors, dans l'espèce humaine, non.
Chez les animaux, oui.
Dans l'espèce humaine, il y a alors des parfums, des produits chimiques qui ne sont pas utilisés dans la parfumerie ou très peu, oui. Qui sont les stéroïdes sexuels. Ça, on sait que le cerveau les traite d'une façon un petit peu différente des odorants autres.
D'accord, mais ça, c'est hormonal.
Voilà, alors oui. Ça, c'est hormonal. Ça ne veut pas dire que ça déclenche automatiquement une tentative de séduction. Mais ça veut dire que le message est traité autrement dans le
d'accord,
cerveau,
d'accord.
Aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
D'accord. Ah. Et il y a un aspect intéressant, puisque vous parlez d'hormones, c'est que quand on est enceinte, notre sens aussi de l'odorat change. C'est-à-dire qu'un parfum qu'on portait avant d'être enceinte ne pourra plus être forcément toléré. Ça, c'est étonnant aussi. Pourquoi le cerveau refuse ?
Alors, c'est très difficile. Du point de vue olfactif pur, quand on fait des essais auprès des femmes enceintes, on s'aperçoit qu'elles sentent en gros, comme avant.
D'accord.
Par contre, leur état, ce qu'on dit, mais là, on rentre dans des explications psychologiques, c'est de dire, comme il y a une protection du bébé qui est importante à faire, on va enlever tous les messages, on va dire, forts de l'environnement, on va les éviter.
Qui contredisent, oui.
Voilà. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on va stopper les parfums. Ah. Moi, j'avais une professeure de piano qui se parfumait beaucoup,
oui.
Et quand elle a été enceinte, elle ne se parfumait plus du tout.
Et du coup, vous avez mieux joué du piano ou pas ?
Non, d'accord. Pas vraiment.
Georges est avec nous, Standard d'Europe 1, nous appelle du Bordelais. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors vous, bravo, vous avez le même parfum depuis combien de temps, Georges ?
Écoutez, j'ai plus de 75 ans.
Oui.
J'ose pas dire combien, j'ai plus de 75 ans, j'aurai 80 ans dans 6 mois, voilà, allez, je le dis.
Allez, bah bravo, oui.
Bon, je me porte comme un charme, c'est un ravissement, c'est un bonheur. Et depuis l'âge de 25 ans, ma première épouse m'a offert habit rouge de Guerlain qu'elle a été chercher aux Champs-Élysées parce qu'on ne le trouvait nulle part ailleurs.
Ah bah oui, à la boutique Guerlain sur les Champs, on ne trouvait Guerlain que là.
Exactement, hein. C'est vrai. Bon, depuis j'en trouve un peu partout.
Oui.
Mais c'est magnifique ce parfum. Alors j'utilise l'eau de parfum, quelle que soit l'eau de toilette, mais franchement c'est magnifique. J'adore ce parfum.
Et je vous remercie Georges, parce que là on parle beaucoup de femmes dans l'émission, et les hommes aussi aiment se parfumer, aiment cette fidélité à habit rouge par exemple. Il ressemble à quoi, Denise Beaulieu, pour nous donner une idée de Guerlain ?
C'est un parfum qui est un peu finalement assez doux et vanillé.
Mais c'est un parfum pour hommes ?
Mais bien sûr que c'est un parfum
d'accord.
pour hommes.
Mais qui peut être mixte ? Oui.
Une femme pourrait le porter, c'est-à-dire que le
il
parfum...
Il est très inspiré des Hôtes Chalimard.
Exactement. Ah, donc il est... Mais de toute façon, c'est le parfum dans lequel vous vous reconnaissez, que vous pouvez porter. Donc qu'il soit pour homme ou pour femme, au Moyen-Orient, les hommes peuvent s'asperger de la tête aux pieds de J'adore de Dior et ne pas du tout mettre en cause leur virilité.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a des parfums mixtes qui sont tout à fait... Dior fait beaucoup de parfums mixtes d'ailleurs, qui sont à la fois...
Oui, mais d'ailleurs à l'origine, le parfum n'avait pas de genre.
Oui.
Quand on remonte loin dans l'histoire, le parfum était aussi bien pour les hommes que pour les femmes à partir du moment où le parfum leur plaisait.
Dès l'Antiquité d'ailleurs ?
Ah oui, bien sûr. Bah, dès l'Antiquité, le parfum c'est l'odeur des dieux. Donc c'est la bonne odeur. Et c'est celle qui fait que vous êtes un être supérieur, ce qui vous donne cette aura qu'on appelle aujourd'hui, donc cette présence invisible. Donc il n'y avait pas de genre. Le genre est né avec le marché. À partir du moment où on s'est adressé à un plus grand nombre, eh bien il a fallu expliquer qu'il y avait des parfums pour hommes et des parfums parfums pour femmes. En fait, surtout des parfums pour femmes, parce que la parfumerie masculine, elle revient au XXe siècle tardivement quand même.
On fait une petite pause, ensuite nous avons Claude-Sophie qui décidément nous attend, mais j'en ai tellement parlé depuis le début de l'émission avec Opium. Elle va arriver, Claude-Sophie, de Tours. Catherine, Anne-Marie nous rejoignent. Jacqueline aura une question à vous poser pour son premier parfum qu'elle recherche encore, celui de Jean Patou. Voilà, réfléchissez mesdames et monsieur, oui. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Est-ce que notre parfum révèle de nous ? Vaste programme, Wendy Bouchard.
Ouais, c'est passionnant à entendre Elisabeth de Feydeau, historienne du parfum, consultante pour de grandes maisons de parfumerie et auteure du roman des Guerlains chez Flammarion. Roland Salès, créateur du laboratoire de neurobiologie de l'olfaction à l'INRA, va nous informer encore sur le sujet, ainsi que Denise Beaulieu, journaliste pour la revue Né, la revue olfactive qui sort deux fois par an, qui est une revue formidable que je vous recommande, et qui a publié le grand livre du parfum il y a quelques jours aux éditions Né Culture. Alors chers amis, depuis le temps que je vous l'annonce, elle est là, Claude-Sophie, nous appelle de Tours au 3921. Bonjour madame.
Bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à vos invités.
Merci de votre patience déjà.
Voilà. Alors moi, contrairement à madame Beaulieu, je suis fidèle à mon parfum depuis 40 ans. Je n'ai pas l'impression de ne pas voyager, de ne pas être désuète pour tout ça.
Oui.
Et j'ai adopté Opium depuis sa création en 1977. Pour différentes raisons, la fragrance, l'odeur, le jasmin qui me charmait, mais également ce parfum me donnait séduction, assurance. J'étais jeune femme dans un monde d'hommes et je l'assumais parfaitement. D'ailleurs, je trouve que c'est dans ces années où la femme a pris le pouvoir beaucoup mieux que maintenant. Elle le prend presque moins. Et Opium représentait pour moi quelque chose d'important aussi par la provocation du nom, parce que ça avait provoqué à l'époque, par le flacon, qui était le premier flacon en plastique nylon imitant la laque de Chine qui a été sortie, tous les autres parfums étant dans des flacons de verre. C'était ce qui m'avait séduit. Oui. C'était l'originalité. Le créateur Jean-Louis de Sieusac était un nez extraordinaire pour avoir créé ce parfum. Et le lancement précis, officiel, même s'il a été créé en 77, c'était en 78, sur le port de New York, à South Street, qui était le port ancien de réception des paquebots d'opium. Et alors bon, c'était très provocateur. Voilà. Et j'ai adoré ça parce que ça me représentait, ça représentait mon tempérament.
Oui.
Et j'avais vécu autrefois avec maman qui avait des effluves de fin de Chanel dans toute la maison. Alors moi, je suis opiumisée des pieds à la tête. Hein.
Mais voilà. Vous êtes formidable, Claude-Sophie, parce que
vous incarnez ce parfum.
Et c'est ça, vous êtes incroyable.
Ouais. Alors, je vais vous dire, dans la maison, on ouvre mes penderies, on sent opium. J'ai comme ambiance de toilette le déodorant d'opium.
Oui.
Donc, c'est très un peu provocateur, parce que c'est quand même des choses qui sont assez chères.
Oui.
Mon chat sent opium. Guichette, un poil qui sent opium.
Bah forcément.
J'ai des rituels, je me parfume derrière les genoux, d'ailleurs, vous avez raison.
Ah oui.
Je parfume comme faisait maman mes ourlets de robe et je me parfume non pas sur moi mais en vaporisant au-dessus de ma tête très haut mon parfum pour qu'il descende sur mon corps.
Écoutez, vous êtes la plus belle ambassadrice d'opium. Si Saint-Laurent, la maison vous écoute.
Mes collaborateurs, quand j'arrivais à Paris dans mon immeuble, ils savaient quand j'étais arrivée parce que quand j'avais pris l'ascenseur, il y avait des effluves qui sortaient.
Alors,
bon, une période, je portais des fourrures, j'en porte plus parce que ma fille ne veut plus j'en porte. C'est très bien.
Merci.
Mais je parfumais mes fourrures aussi. Et je vous dis, je parfume aussi mes tapis et mes rideaux.
Eh ben, vous allez avoir un budget opium à la maison, c'est quelque chose. Sophie, c'est drôle parce que vous avez décrit ce flacon que tient en main Julie, car c'est votre
c'est mon
parfum.
Mon parfum aussi depuis des années, mais je ne savais pas autant de choses que Claude,
Je vais vous expliquer. Le flacon du parfum, c'est ce qu'on appelle un inro, qui était destiné aux anciens de Chine. Ils les portaient à la ceinture pour mettre des plantes médicinales.
Mais vous êtes une encyclopédie sur l'opium.
Je suis jalouse.
Je vais vous faire rire, parce que vous avez écrit des livres. Moi, je me suis écrit un livre à moi,
formidable.
Ma vie au travers d'opium.
Mais c'est
parce
magnifique.
Que ça m'a permis pendant 40 ans, à travers tous mes voyages, opium m'a accompagnée partout, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Je vous donne un exemple. En salle d'opération où je suis restée 3 semaines dans le coma, Je me suis réveillée, la première chose que j'ai demandé, c'est qu'on m'apporte opium pour que j'en mette sur mon oreiller.
Et dites-moi, vous voulez pas nous envoyer, enfin envoyer ce livre à la maison Saint-Laurent?
C'est trop prétentieux de dire ça. Ça me donne envie de le terminer.
Mais terminez-le et puis on vous met en contact avec la maison Saint-Laurent. Je suis sûre qu'ils seraient ravis d'avoir une représentante aussi comme vous.
Vous ne pouvez pas savoir ce qu'opium a représenté et continue de représenter pour moi.
Il
y a une chose que je déplore, oui. C'est que je ne trouve plus l'extrait de parfum réel. Ouais. Que je trouvais pour mettre dans un vaporisateur de sac qui avait été fait par Saint-Laurent à l'époque en véritable lac, que je ne peux plus recharger et je ne le trouve plus parce qu'ils ne le sortent plus.
Alors,
et puis j'ai une remarque sur la fragrance actuelle par rapport à la fragrance ancienne. Je trouve qu'opium n'a pas la même fragrance aujourd'hui qu'il avait il y a 40 ans en arrière.
Alors voilà. Claude-Sophie, d'abord, nous avons eu raison de vous attendre. C'était votre moment magnifique. Bravo. Et un petit mot, Elisabeth de Fedot, parce que là, on est assez subjuguée par ces mots.
Subjuguée, oui, parce que c'est une... Vous êtes absolument incroyable parce que vous avez aussi recherché pourquoi vous aimiez ce parfum et qu'est-ce qu'il représentait pour vous par rapport à ce qu'il était. Donc vous nous apportez énormément d'informations et vous incarnez tellement bien ce parfum, tellement bien cette libération des femmes dans les années 70, comme vous l'avez dit.
Comme Julie pour vous.
Comme Julie, tout à fait, avec cette séduction affranchie.
Je suis opium, moi, vraiment.
Ah oui, moi je suis très opium. Ouais,
parfait. Moi je trouve que les noms ont tellement d'importance dans
tellement,
les parfums.
Tellement
d'importance. Opium, moi j'ai adoré. Et Saint-Laurent, moi, c'est la signature Saint-Laurent d'abord qui m'a fait
Et en plus, vous avez souligné tellement bien la cohérence de ce parfum, et c'est ça qui fait la force d'un grand parfum.
Oui.
C'est quand tout est cohérent, tout est juste.
Dans l'histoire.
Tout est juste, bien sûr. Et là, évidemment, les parfums changent un petit peu, puisque nous avons des réglementations dans le parfum, et c'est pour ça que le parfum de 77-78 n'est plus exactement celui de 2018.
D'accord, notamment sur les matières premières.
Et oui, c'est des matières premières.
Les marques communiquent rarement sur cette question.
Oui.
Ça commence un tout petit peu, justement.
Mais c'est pour ça.
Mais ça n'a pas commencé par les marques. Ça a commencé par, justement, le mouvement de culture olfactive qui est incarné par Ney, notamment la revue Ney, de gens qui étaient des passionnés et qui sont devenus des experts au fur et à mesure de tanner des gens comme Elisabeth de Fedot ou Roland Salès pour avoir des réponses. Nous sommes devenus des experts et nous avons un peu diffusé ces connaissances que les marques, forcément, ça la fout un peu mal de communiquer en disant « Bah non, notre parfum a changé. »
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ça a des vertus plus éthiques aussi.
Oui, le souci, c'est ça. C'est cette législation qui impose aux parfumeurs de changer des molécules. Donc, il y a eu un énorme travail de la part des maisons pour remplacer à l'identique. Mais l'identique n'est jamais exactement la même chose.
La femme qui porte un parfum étant la meilleure experte de son parfum, comme on l'a vu à l'instant.
Bien, absolument. Merci, chers amis. Marie-Rose nous écrit de Creil. Je mettais Zibeline de Veil dans les années 70. Il me rappelle mes premières amours. Catherine va témoigner ainsi que Anne-Marie dans un instant. À tout de suite. Bravo pour ce moment, Claude.
Qu'est-ce que notre parfum révèle de nous? Pourquoi sommes-nous sensibles à tel parfum, tel ou tel parfum? On en parle avec Wendy Bouchard jusqu'à 11h, les dernières minutes.
Oui, sensible et si fidèle, Jacqueline nous écrit de la Sarthe. Le premier parfum de Jean Patou est-il encore disponible? Alors, vous avez fouillé dans votre mémoire, elle est intacte, Elisabeth de Fedot, bravo. Premier parfum, ça remonte à quelle année?
Dans les années 30, avec cette trilogie merveilleuse, Amour, Amour, Que sais-je, Adieu, Sagesse.
C'est beau ça.
Et alors voilà, donc, mais qui n'existe plus évidemment. Ensuite, on avait le moment suprême, on a eu aussi Colonie en 1938 pour célébrer l'exposition coloniale à Paris.
Mais tout ça n'existe plus.
Joy en 1929.
Ils ont été refaits en fait récemment.
Denise Beaulieu.
Ce qui se passe, c'est que la maison Jean Patou, les parfums Jean Patou viennent d'être rachetés par LVMH, donc les propriétaires de Dior, Louis Vuitton, etc. Et qu'on ne sait pas le devenir de ces parfums qui ont été réédités quand même à quelques reprises de manière confidentielle.
Il y a eu Huile de Patou aussi.
Voilà.
Donc on peut pas savoir. On attend de voir. Mais
des parfums anciens, en tout cas, on a beaucoup de références du genre. Catherine nous écrit du Canet. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je changeais de parfum très souvent, même au cours de la journée. Elle se cherchait manifestement un petit peu. Depuis 25 ans, je porte soit l'heure bleue ou le numéro 5. Ce sont de vieux parfums aussi.
L'heure bleue 1912, c'est mon
magnifique,
parfum.
Ça.
Moi, je suis fidèle à ce parfum depuis toujours. Et le numéro 5, 1921, c'est le patrimoine immatériel de l'humanité.
J'habite à 700 km de mes petites filles, nous dit dit Anne-Marie, elle nous écrit de Seine-et-Marne. Et pour rester en contact avec elle, je mets toujours le même parfum. Quand mes petites filles rentrent dans une parfumerie, elles recherchent ce parfum, c'est Paris de Saint-Laurent, et elles en mettent et elles se souviennent de moi. Ça, c'est beau, Roland Salès.
Oui, c'est un des aspects les plus remarquables du sens olfactif. C'est qu'on a une mémoire, je dirais, qui se construit quasiment à notre insu, de façon non consciente, mais qui est toujours là. Et quand on retrouve les notes olfactives dans une ambiance, voire inattendue, ben ça ramène tous les souvenirs. Je repensais à cette dame qui parlait d'opium tout à l'heure. Il y a une collègue américaine qui a fait la manip suivante. Elle a recherché des gens qui avaient un souvenir agréable lié à un parfum. Mmh. Et elle les a passés en imagerie cérébrale pour voir ce qui se passait dans leur cerveau. Eh bien, elle a trouvé une jeune femme qui avait un souvenir d'opium, justement, qu'elle avait senti avec sa mère lors d'un voyage à Paris, parce qu'elle est aux États-Unis, lors d'un voyage à Paris lorsqu'elle avait 8 ans. Et puis elle avait ce souvenir en tête. Et quand on l'a mise, cette dame, dans l'appareil d'imagerie cérébrale et qu'on a regardé les zones de son cerveau qui s'activaient, soit en lui faisant sentir opium, soit même simplement en évoquant opium, en parlant, eh ben on s'est aperçu que les zones liées à l'émotion, c'est-à-dire les zones de l'amygdale dans le cerveau, pas l'amygdale de la gorge, l'amygdale du cerveau, s'activaient. Avec ce souvenir.
Ah, c'est fou.
Et ce sont des zones qui traitent de façon complètement inconsciente nos perceptions.
Ah, c'est pour ça qu'on ne on peut pas parler parfum sans avoir le sourire. Moi, j'ai toujours vu le bonheur.
D'abord, c'est très intime.
On partage des émotions, on partage des souvenirs. Et les gens sourient. Moi, je trouve ça merveilleux. Parce que je me dis que finalement, travailler dans le parfum, c'est être une marchande de bonheur. Quoi. On est dans ces émotions.
Et ce qui est magnifique, c'est que vous m'avez appris, il y a des choses qui nous dépassent. Moi, j'ai deux parfums de deux marques différentes. Mais vous m'avez appris, Denise Beaulieu, que c'était le même nez qui les avait fait.
C'est le même nez. C'est Jean-Claude Hélénat, qui est un très grand parfumeur et qui a une vraie signature olfactive.
Ça veut dire qu'on est attiré quand même par un son.
Vous me parlez aussi d'un autre parfum que vous portez, qui est bois d'argent. De Dior, qui est un parfum qui est pas du tout, qui est pour hommes et pour femmes, enfin, qui est créé par une très grande créatrice de parfums qui s'appelle Annick Ménardeau, qui a aussi fait Hypnotique Poison, qui a fait Boss Bottle, qui a fait Lolita Lempicka, le premier, etc. Et ce sont des parfumeurs qu'on arrive. Moi, j'ai fait une expérience moins scientifique que celle de Roland Salès, mais néanmoins avec un groupe de stagiaires à qui je donnais une séance d'évaluation finalement. Olfactive, une manière de relier les mots au parfum. J'ai donné 3 mouillettes de parfums de Jean-Claude Hélénat sans le nommer et sans nommer les parfums. 3 mouillettes à un autre groupe de parfums d'Annick Ménardeau. À la fin, je leur donnais une heure pour discuter quel est le style de ce parfumeur. Ils m'ont défini les caractères de ces parfumeurs alors qu'ils n'avaient ni le nom du parfum, ni le nom du parfumeur. Ce qui veut dire que c'est une vraie expression du créateur et de l'artiste aussi.
Ouais, bah c'était une émission poétique, artistique, qui a fait appel à nos souvenirs, à vos souvenirs, chers amis. C'était très émouvant de vous entendre aussi. Bah voilà, si vous êtes réfractaire au parfum, peut-être cette émission va vous donner envie de vous interroger. Pourquoi la nécessité d'un parfum si vous avez l'impression que ce n'est pas très, très utile. Bah voilà, ça nous raconte d'une certaine manière et vous l'avez très bien dit, Roland Salès, créateur du laboratoire de neurobiologie à l'INRA, de l'olfaction. Faut-il sentir bon pour séduire? C'est les éditions Coué 2015. Denise Beaulieu, journaliste pour la revue Né, revue olfactive qu'on vous recommande. Et le grand livre du parfum, si vous voulez faire un cadeau, ça nous replonge aussi dans l'histoire. Elisabeth de Fédot, merci de votre venue aussi. Vous avez publié le roman des Guerlain, Grande famille de parfumeurs de Paris chez Flammarion 2017. Bah écoutez, vous avez rangé votre beau flacon opium dans votre sac, Julie. Il reste fidèle et vous accompagne. Vous parfumez combien de fois par jour? Combien de petits pchits?
Plusieurs fois, je fais des petits pchits, des petits raccords comme ça.
Merci à tous, chers amis, et à demain.